Vous écoutez, on lit pour vous.
Troubles du langage, des outils inadaptés pour les enfants francophones bilingues. Un texte d'Inès Lombardeau et Lei Ai Wong Vu, paru le 2 juillet 2025 dans L'Eau Vive. Détecter les troubles du langage chez les enfants bilingues, notamment les francophones en contexte minoritaire, reste un défi. Faute de ressources et d'évaluations adaptées, certains pourraient être mal diagnostiqués, alerte des chercheuses. Lors d'un panel tenu le 25 juin à Ottawa, dans le cadre du colloque « Pouvoir des langues, langue du pouvoir », trois professeurs de l'Université Laurentienne ont dressé le même constat. Les normes permettant d'évaluer le développement du langage chez des enfants francophones en situation minoritaire sont inadaptées, voire inexistantes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de dépistage qui permet de prédire si les enfants en âge préscolaire vont avoir des troubles de développement du langage au scolaire, affirme la professeure agrégée à l'école d'orthophonie de la Faculté d'éducation et de santé de l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario, Roxane Bélanger. C'est pourquoi elle a cherché à multiplier les outils dans le cadre de ses recherches, en auditionnant des enfants bilingues, 10 dont le français était la langue dominante et 36 dont c'était l'anglais. Les gestes comme outils de dépistage. Selon Roxane Bélanger, l'emploi des gestes chez les enfants d'âge préscolaire, de 1 à 5 ans, reste un indicateur du développement langagier et cognitif. Les gestes sont accessibles, ils sont culturellement robustes et indépendants du vocabulaire. Ils demeurent donc un outil de dépistage et d'intervention dans les communautés où les enfants sont surtout exposés à une langue minoritaire. Les gestes permettent de surveiller le développement du langage sans avoir recours au vocabulaire dans la langue majoritaire. Agir sur le développement des gestes à l'âge préscolaire en amont permettrait d'éviter une cascade de difficultés, remarque-t-elle. Cette situation concerne les enfants issus d'un foyer où ils sont exposés à une ou à plusieurs langues minoritaires, de manière plus ou moins constante, ce qui peut influencer les vitesses puis la nature du développement langagier, souligne-t-elle. Les premiers résultats de ces recherches ont permis à la professeure de confirmer que, lorsqu'un dépistage est effectué à 36 mois, il est possible de prédire et de corriger l'apparition d'éventuels troubles à 70 mois. Le casse-tête de l'évaluation. D'après elle, il manque une stratégie d'identification précoce sur l'emploi de gestes qui tienne compte de la complexité du développement de l'enfant, surtout au sein des communautés linguistiques minoritaires. Il y a peut-être des concepts qui ne sont pas universellement pertinents ou transposables, ajoute la professeure. Selon elle, l'emploi de gestes pourrait dépendre de la langue, avec à la clé des différences culturelles. Mais faute de recherche pour les langues minoritaires, c'est encore un casse-tête d'évaluer des enfants qui changent de langue en fonction du contexte majoritaire. Puis, en français, on n'a pas le choix. On doit utiliser des outils qui sont traduits, déplore-t-elle, soulignant l'incertitude quant à leur fiabilité. Parfois, les orthophonistes s'appuient sur des outils conçus en France ou au Québec, ce qui ne reflète pas non plus la réalité des communautés de langue officielle minoritaire, souligne-t-elle. Attentes culturelles différentes. L'autre défi, selon Roxane Bélanger, est qu'il y a souvent une quantité inégale d'exposition aux différentes langues, ce qui peut influencer la communication gestuelle et orale. Pour la professeure, la langue majoritaire domine l'environnement direct des médias, à l'école, lors des activités extrascolaires ou communautaires. Ça influence vraiment la motivation de l'enfant et la capacité à apprendre la langue minoritaire. Et les quelques recherches qui ont eu lieu auprès des langues minoritaires ont montré qu'il peut y avoir des attentes culturelles différentes face au développement du langage, pointe encore Roxane Bélanger. Sa collègue, Michel Minor-Corriveau, également professeur agrégé à l'école d'orthophonie de l'Université Laurentienne, relève que les enfants bilingues ont longtemps été évalués dans leur langue dominante. Quand on a commencé en tant qu'orthophoniste, on avait des gens qui résistaient au fait qu'on devait évaluer l'élève en français en milieu minoritaire, témoigne-t-elle. Or, les normes actuellement en place restent inadaptées, insiste-t-elle, puisque 80% des élèves ne répondent pas aux critères exigés. Autre souci, le fait de penser qu'un enfant a un trouble du langage alors que ce n'est pas le cas. On va parfois soit suridentifier un trouble quand en fait les enfants sont tout simplement en voie d'acquisition de la langue seconde. Donc c'est sûr que lorsqu'ils sont en train d'apprendre une langue seconde, ils n'auront pas des scores comparables à un enfant monolingue, soulève Chantal Maillère-Crittenden, professeur dans la même faculté que les deux autres chercheuses. En entrevue avec Franco Presse, Julie Boissonneau, co-organisatrice et co-fondatrice du colloque international « Langue et territoire », explique la raison d'être de l'événement. Il a été créé d'abord et avant tout par intérêt pour les langues. Il vise aussi à offrir un espace d'échange entre des disciplines qui s'intéressent à des enjeux similaires, poursuit-elle. Julie Boissonneau confirme qu'il s'agissait de la dernière édition du colloque, principalement en raison du décès en 2023 d'un des cofondateurs, Ali Reghighi, professeur de linguistique à l'Université Laurentienne. C'était « Troubles du langage, des outils inadaptés pour les enfants francophones bilingues », un texte d'Inès Lombardo et Lei Ai Wong Wu, paru le 2 juillet 2025 dans l'Eau Vive.
Agriculture et technologie au service des jeunes en difficulté. Un texte de Camille Saint-Son, paru le 21 juin 2025 dans Le Devoir. En marge des parcours scolaires classiques, les adolescents en difficulté de l'école secondaire La Passerelle, au centre jeunesse de la Cité des Prairies, découvrent avec le programme AgriLab un espace d'apprentissage concret où l'agriculture et les technologies deviennent des outils d'enrichissement, de stimulation et surtout de fierté personnelle. Entre aller en français et aller en horticulture, je préfère aller en horticulture. C'est vraiment un truc où tu t'amuses, c'est plaisant. C'est des projets que tu fais et que tu termines. Tu vois le bout du projet. Nous confie avec un enthousiasme palpable Gabriel, 16 ans, lors de l'inauguration de la nouvelle serre interconnectée. Comme l'identité des jeunes cités ne peut être révélée en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, des noms d'emprunt ont été utilisés. Alors que les murs du centre jeunesse sont ternes et monotones et que le terrain est ceinturé de grillages, le jardin, lui, apporte une touche de couleur à l'ensemble. Entre les rangs de tomates, de concombres et de poivrons, la serre s'élève, claire et accueillante. Installée à l'automne 2024, mais pleinement fonctionnelle depuis mars 2025, cette serre est un véritable laboratoire vivant, avec notamment deux grands bassins de poissons et des smart pots, des pots en tissu interconnectés avec de l'arrosage automatique. Ce projet fait partie du programme plus large d'AgriLab, lancé en 2021, qui s'adresse à une centaine de garçons âgés de 13 à 21 ans, placés sous la loi de la protection de la jeunesse ou la loi sur le système de justice pénale pour adolescents au centre jeunesse. Pour Julie Rivet, enseignante et co-responsable d'AgriLab, l'objectif est avant tout d'éveiller la curiosité des élèves. Et selon elle, ça fonctionne. C'est très, très rare que j'ai des absents dans mes cours. Les jeunes se sentent vraiment valorisés parce qu'ils sont rendus super bons, se réjouit-elle. Et finalement, ils font des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils seraient capables de réaliser. Un programme éducatif novateur. Mais AgriLab, ce n'est pas seulement de l'agriculture, c'est aussi de la technologie. Julie Rivet indique qu'il est question de plonger dans la programmation, la robotique, de chercher des solutions, d'explorer, d'innover. C'est justement ce qui plaît à Gabrielle. Le principal truc que moi j'ai aimé, c'est qu'on puisse avoir accès aux imprimantes 3D, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ça coûte quand même cher. Avec ce programme, l'école devient un véritable terrain d'exploration où les jeunes retrouvent le goût d'apprendre autrement. Il faut une communauté engagée pour offrir aux jeunes un environnement riche, motivant, porteur d'espoir et différent de ce qu'on fait d'habitude aussi. L'école, ce n'est pas tout le temps une zone de succès pour tout le monde, mais grâce à plusieurs initiatives scolaires, puis à l'engagement de nos partenaires, on peut penser autrement, faire autrement, créer des opportunités super inspirantes, rappelle l'enseignante. Les élèves de la passerelle peuvent donc aujourd'hui programmer, imprimer en 3D, cultiver en hydroponie, cultiver en aquaponie, cuisiner, faire de la conserverie, de la transformation alimentaire, expérimenter l'entrepreneuriat, cultiver en hiver, même des champignons. Philippe, 15 ans, a ainsi pu se découvrir un intérêt pour la pâtisserie. Ça demande de la patience. Moi, j'aime ça, les trucs qui demandent de la patience et de la minutie. Du côté de l'ébénisterie, c'est un sentiment de fierté qui se dégage chez Jérémy et Fabien, 18 ans, qui confient que lorsqu'on les ramène, les fauteuils dans les unités, les autres jeunes sont comme « Wow! C'est vous-même qui les avez faits! » Toutes les activités manuelles proposées permettent également aux adolescents de se recentrer et de diminuer leur stress. Fabien trouve, par exemple, que travailler le bois, c'est vraiment relaxant. Quand tu fais ton affaire, t'es dans ta tête, tu écoutes la musique. Avec AgriLab, les élèves redécouvrent le calme, la confiance et la fierté du travail accompli. Le projet unique de la culture de champignons en intérieur a tellement conquis Gabriel que c'est avec un grand sourire qu'il conclut « Je crois que c'est une chance que j'ai eue et que j'apprécie beaucoup. » C'était « Agriculture et technologie au service des jeunes en difficulté ». Un texte de Camille Saint-Son, paru le 21 juin 2025 dans Le Devoir.
Le jardin parfaitement imparfait d'un couple de granola. Un texte de Marco Forti, paru le 10 juillet 2025 dans Le Devoir. On remarque tout de suite la fraîcheur, le parfum d'herbes et de fleurs qui flottent dans l'air ainsi que l'abondance de verdure. Le terrain de Jean-François Bégin et de Kirsten Zweig, à Laval, a des airs de mini-jardin botanique. Le couple de retraités a aménagé cet éden avec ses mains, sans outils électriques ou à essence, et sans pesticides. Bienvenue dans ce sanctuaire où la lenteur reprend ses droits. On est des granolas, lance Kirsten Zweig en nous accueillant à la résidence du couple dans une rue tranquille du quartier Pont-Viau. Les deux horticulteurs en herbe ont eu envie de faire part de leur recette de jardin éco-responsable après avoir lu le récent reportage du Devoir sur l'obsession de la pelouse parfaite. Jean-François Bégin et Kirsten Zweig, eux, incarnent l'antithèse de cette esthétique du terrain gazonné héritée de la bourgeoisie du siècle dernier. Pour les deux jardiniers, il n'existe pas de mauvaises herbes, mais plutôt des plantes ayant mauvaise réputation. Ils considèrent les prétendues mauvaises herbes comme des plantes éco-désirables, adaptées au climat local, résistantes, souvent jolies et nécessitant un apport minimal d'eau. Ils se décrivent comme des disciples de la nature inspirés par le frère Marie-Victorin, auteur de la flore laurentienne, véritable bible des espèces indigènes. On forme une communauté d'êtres vivants avec notre jardin. On est des terriens, on vient de la terre, on va retourner à la terre, dit Jean-François Bégin. Il y a quelque chose de spirituel dans la démarche du jardinier et de son amoureuse. Le natif de Jonquière et sa future conjointe d'origine allemande se sont connus il y a 3 décennies lors d'un séjour humanitaire en Ouganda, dans l'est de l'Afrique. Lui était missionnaire laïque pour la communauté des Pères Blancs. Elle était infirmière. Aventure horticole. Les deux affirment n'adhérer à aucune religion, mais prônent des valeurs humanistes. La philosophie bouddhiste les inspire. Un discret Bouddha semble méditer dans un coin de leur cour. Le couple cherche à ralentir, à aller à contre-courant de la société de consommation. C'est dans cet esprit que leur bungalow de Laval est devenu le centre d'une aventure horticole qui détonne par rapport au terrain du voisinage. Pas moins de 160 espèces de plantes et d'arbres cohabitent autour de la maison où ont grandi leurs 2 fils devenus adultes. Le terrain est devenu une attraction qui intrigue les passants. Le bon vieux gazon occupe une infime partie du terrain des Bégin-Zweig. Des plantes vivaces considérées comme des nuisances par les adeptes de la pelouse parfaite sont à l'honneur. Le trèfle, les marguerites et même les asclépiades qui se répandraient à la vitesse de l'éclair sans intervention humaine enjolivent le site. Des arbustes, des fleurs de toutes les couleurs, une variété d'arbres, chênes, mélèzes, épinettes géantes, pommiers, etc., des fougères et bien d'autres espèces peuplent ce jardin unique. Des vignes qui viennent s'accrocher à une structure de bois érigée dans la cour arrière font office de parasol. La terrasse est d'une fraîcheur indéniable en cette journée de canicule. Du compost maison. Jean-François Bégin aménage ses plates-bandes à l'aide de matériaux récupérés à gauche et à droite, des pierres issues des travaux de réfection de la rue, de vieilles branches de lilas et même des morceaux de vases en céramique délimitent les îlots de végétation dispersés sur le site. Des branches d'arbres servent aussi à la fabrication de clôtures qui ont l'avantage de se décomposer, ce qui nourrit le sol, souligne le jardinier. Le compostage est depuis toujours à la base de la recette horticole du couple, bien avant le succès retentissant de l'horticultrice et humoriste Marthe Laverdière. Jean-François Bégin enterre dans ses plates-bandes les feuilles mortes de ses arbres. Quand il a dû faire abattre l'immense érable de Norvège qui traînait devant la maison en 2024, l'horticulteur a insisté pour laisser sur le sol les copeaux de bois que l'émondeur voulait ramasser. Le plus beau, c'est que le couple n'a pratiquement jamais besoin d'arroser sa pelouse, qui résiste naturellement aux périodes de sécheresse. Le peu d'arrosage se fait avec de l'eau de pluie récupérée dans un baril et la tondeuse à bras, 4 fois par été, pas plus. Quant aux mauvaises herbes, pardon aux plantes, éco-désirables, digitaires, asclépiades, anémones du Canada, verges d'or, fougères et même hémérocales, elles sont arrachées à la main afin qu'elles n'accaparent pas tout l'espace, mais pas complètement éliminées quand même. Ça pousse tout seul, on en profite. La nature d'abord. Un peu plus au nord, dans le quartier Vimont, toujours à Laval, Jean Lavoie a la même conception de ce qu'est un beau terrain. Pour lui, l'usage de produits chimiques pour venir à bout des prétendues mauvaises herbes n'a aucun sens. C'est une mauvaise idée d'empoisonner le gazon pour éliminer certaines plantes, lance-t-il avec indignation. Les pesticides ont des effets sur la santé des humains, particulièrement les enfants, sur les insectes pollinisateurs, sur les petits animaux, sur la nappe phréatique et sur les plantes elles-mêmes, souligne le Lavallois. Au lieu d'essayer de créer les conditions propices à la croissance de l'herbe en monoculture, Jean Lavoie s'accommode de la présence de plantes indigènes qui finissent par composer l'essentiel du couvert végétal de ma pelouse, de façon naturelle, sans effort particulier. C'était Le jardin parfaitement imparfait d'un couple de granola, un texte de Marco Fortier paru le 10 juillet 2025 dans Le Devoir.
Migraine, invalidité silencieuse, un texte de Maude Goyer, paru le 1er juillet 2025 dans La Presse. Ce n'est pas qu'un mal de tête. C'est une hypersensibilité au son, aux odeurs, à la lumière, au mouvement, en plus d'étourdissement et de nausées. Brutales et invisibles, les migraines accablent un travailleur sur quatre, qui préfère souvent souffrir en silence et parfois même démissionner. J'avais des maux de cœur à en vomir. J'étais incapable de tolérer tout stimulus autour de moi et j'avais de grandes difficultés de concentration. J'étais complètement envahie par la douleur. Marie-France Lemire a dû quitter son poste d'enseignante au primaire à Montréal à cause de sa condition. Elle fait des migraines à répétition, et ce n'est pas d'hier. Ses premières crises remontent à sa 4e année du primaire. Elle avait 9 ans. Quand j'en fais une, c'est tellement intense que j'entre en mode « parlez-moi pas, touchez-moi pas, je veux juste être seule dans la pénombre, en silence », raconte la quadragénaire qui habite la rive sud de Montréal. C'est comme si la vie autour de moi était trop irritante. L'anxiété et la dépression guettent les gens qui font des migraines chroniques. Il y a 12 ans, Marie-France Lemire a dû se rendre à l'évidence. Elle ne pouvait plus enseigner. Dans mon cas, c'est une invalidité permanente, laisse-t-elle tomber. Stigmatisation. Alex Béchard-Gauthier vit lui aussi avec de terribles migraines. Le développeur web de 36 ans a la chance d'être à 100% en télétravail. Cela l'aide à passer à travers ses journées, même s'il sent que ses collègues ne comprennent pas toujours ce qui l'afflige. Je me fais dire d'aller prendre une marche, de me mettre au yoga, de couper le gluten, dit le Lavallois en riant. Mais ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de préjugés qui entourent les gens qui font des migraines. Selon Heather Pym, neurologue directrice de la clinique des céphalées du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et présidente de Migraine Québec, il y a une grande stigmatisation autour des gens qui font des migraines. La condition est peu ou mal comprise. De plus, elle est jugée durement, indique-t-elle. C'est vu comme une maladie mentale parce que c'est une maladie invisible. Les gens qui font des migraines se sentent coupables d'être moins fonctionnels, de se sentir moins performants, d'offrir un moins bon rendement, alors ils cachent leurs symptômes. Non seulement c'est sous-diagnostiqué, mais il y a une méconnaissance autour de la migraine, explique la docteur Pym. Plus de femmes. Classée comme une maladie neurologique, la migraine affecte plus de 1 million de Québécois, selon une étude réalisée en avril 2024 par Migraine Canada. Et alors que 25% des travailleurs disent souffrir de migraines, seulement la moitié d'entre eux ont reçu un diagnostic médical. Les femmes sont plus affectées, souligne la docteure Pim. Elle représenterait entre les deux tiers et les trois quarts des gens qui font des migraines. Ce qui est le plus frappant, c'est à quel point les migraines touchent une tranche de la population qui est jeune, principalement les 30-50 ans. On parle donc de gens qui sont actifs, qui contribuent à la société. La migraine, ce n'est pas avoir n'importe quel mal de tête, précise le médecin, aussi professeure adjointe de neurologie à l'Université de Montréal. Cela ne se règle pas en buvant plus d'eau. L'hypersensibilité sensorielle peut mener à un brouillard mental, à des difficultés de concentration, à une parole au ralenti, à de l'insomnie, et ces symptômes peuvent durer entre 4 heures et 3 jours. Arrangement au travail. Incurable mais traitable, la migraine peut être contrôlée par certains traitements et ses effets peuvent aussi être amoindris par certains accommodements en milieu de travail. Les néons au plafond et les aires ouvertes ont un impact sur tout le monde, mais encore plus sur nous, note Marie-France Lemire, en parlant des gens qui, comme elle, font régulièrement des migraines. La posture au poste de travail, les parfums, les lumières des écrans, le bruit autour sont tous des éléments qui peuvent influer sur la condition migraineuse. Des solutions existent, comme mettre des coquilles anti-bruit à la disposition des employés affectés, instaurer une politique sans parfum, installer des filtres anti-lumière bleue et permettre le télétravail. Avec un peu d'ouverture, les employeurs peuvent prendre en charge efficacement les travailleurs affectés par les migraines, dit la docteure Heather Pim, et ceux-ci, au lieu d'être en perte d'estime et de se retirer du travail, pourront faire leur travail et bien le faire. À noter que selon l'étude de Migraine Canada, les gens qui font des migraines s'absentent du boulot de 4 à 16 jours par année, ce qui coûterait annuellement entre 15 000 et 25 000 $ par personne. C'était Migraine, invalidité silencieuse, un texte de Maude Goyer, paru le 1er juillet 2025 dans la presse.